Eh ben, on va peut-être écouter une chanson qui nous mettra une petite transition entre nos deux sujets. Fatima, si tu veux bien lancer.
Volontiers, puis juste de rappeler que vous écoutez Les Petits Papiers, que Flore et moi-même sommes en compagnie de Camille et de Dominique qui font partie de Sud Éducation. Et juste rappeler aussi que Sud, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est solidaire, unitaire, démocratique, et tous ces mots sont mis au pluriel. Et on s'écoute donc le thème de transition choisi par vous, hein. C'est pas nous, hein.
Oui, oui, la playlist est dessus, voilà. D'éducation aujourd'hui.
Absolument.
On assume.
Absolument. Ça marche.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Boris Vian, le déserteur, mais Dominique, les paroles de la fin de la chanson ont été censurées, c'est bien ça, hein ?
Oui, il y a une petite histoire autour de cette chanson qui n'est pas forcément très connue, mais Boris Vian, en fait, la première version qu'il a écrite, ça se termine par « Si vous me condamnez, prévenez vos gendarmes que je serai en armes et que je sais tirer ». Le problème, c'est qu'il n'en a pas trouvé d'interprète prêt à assumer... la fin de cette chanson. Et bon, après, il y a eu la guerre d'Algérie, il y a eu la censure. Et du coup, l'interprétation, elle a été possible en changeant la fin. C'est-à-dire en disant, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et que je sais...
Et qu'ils pourront tirer.
Voilà.
C'est quand même...
Et c'est dans ces conditions, il me semble, que Mouloudji a été OK de la chanter.
Voilà.
Voilà, et de la populariser aussi.
Alors, on a vu un peu comment l'école de Attal cherche à faire de nos élèves de la chair à patron. Et maintenant, on va voir comment elle cherche à faire d'eux de la chair à canon.
Et voilà.
Bon, apparemment, Dominique, d'après ce que tu nous amènes, c'est une vieille histoire.
Oui, c'est pas... En fait, le SNU, on va en parler, hein, c'est grave, mais...
Alors, le SNU, c'est le service...
Le service national universel, voilà, de M. Macron. Mais depuis 1881, donc on va remonter à Jules Ferry. Je prends juste une petite citation, hein, sous la Troisième République. Donc, nous voulons pour l'école des fusils. Oui, le fusil, le petit fusil que l'enfant peut manier dès l'école, dont l'usage deviendra pour lui chose instructive, qu'il n'oubliera plus et qu'il n'aura plus besoin d'apprendre plus tard. Car ce petit enfant, souvenez-vous-en, c'est le citoyen de l'avenir et dans tout citoyen, il doit y avoir un soldat toujours prêt. Voilà. Ça commence là.
Fatima.
Voilà, et donc c'est Jules Ferry qui a créé les bataillons scolaires. Donc là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez chercher, il y a des gens qui ont écrit là-dessus. Et après, on saute aux années 80. Donc j'ai quand même le regret de vous dire que c'est sous un gouvernement de gauche.
On n'a plus aucun espoir par rapport à ça.
Excuse-moi, dit de gauche. Est-ce qu'on peut quand même préciser
dit de gauche. Hein, oui, voilà. Okay, hein. Que se sont mis en place les protocoles armée-école. Donc, il y en a eu plein. Le premier, c'était Ernest Savary. Donc, à chaque fois, c'est ministre de la Défense et ministre de l'Éducation nationale. Donc, c'était en 82. Il y a eu Chevènement Jospin en 89. Alliot-Marie de Robien en 2007. Il y a eu les établissements de réinsertion scolaire en 2010, les ERS. Vallaud-Belkacem et Le Drian aussi ont signé des protocoles en 2016. Il y en a eu, je crois, aussi Armée-Culture. Me semble. Je ne sais plus trop
drôle,
en quelle année.
Pour c'est presque drôle. Hein.
Voilà. Donc, c'est, en quoi ça consistait ces protocoles ? C'était mettre en place par l'armée des formations continues donc pour les enseignants, la venue de militaires au sein des écoles, des collèges et des lycées pour proposer aux élèves donc, de faire carrière dans la marine, dans les commandos, inviter les enfants à monter dans des chars d'assaut, visiter des bases militaires, admirer des mirages de mille, etc. Bon. Donc, c'était vraiment un rapprochement idéologique et très concret sur le terrain. Donc, il y avait des partenariats qui étaient signés. Voilà. Ensuite, là, à l'époque, il y avait encore le service militaire, qui a, obligatoire donc, qui s'est arrêté en 97. Donc là, c'était juste après une armée de métiers. Mais du coup, il y a quand même eu des choses qui ont continué donc, entre l'armée et l'école. Donc, il y a eu la journée de défense et citoyenneté. Ensuite, la journée d'appel de préparation à la défense, la JAPD. Mes filles ont eu la joie de faire ça. C'était... Mm-hmm. Voilà.
Les miennes aussi, même mon garçon.
Et puis, il y avait une variante, c'était les cadets de la défense. Là, c'était des groupes d'élèves qui allaient découvrir vraiment l'armée et ses métiers. Donc là, il y avait plusieurs demi-journées par mois. Donc ça, c'était des groupes d'élèves choisis, quoi, au sein d'une formation militaire. Et puis, il y avait des camps d'été aussi de quelques semaines, des animations conjointes entre militaires et enseignants volontaires. Bon, les anciens, il fallait qu'ils soient volontaires quand même. Voilà, donc là, il y avait levée des couleurs, hommage aux morts, séance sur les batailles et la stratégie militaire, etc. Donc, une vraie formation militaire, en vrai.
Mais là, j'ai l'impression que ce qui se passe actuellement, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que l'armée n'est pas là pour montrer ce qu'est l'armée et donner envie de participer à ce grand truc humanitaire qui sauve des vies partout, mais plutôt que l'armée vient pour éduquer nos élèves.
Mais c'est ça. C'est le gros changement. Bon, après, je vais passer au SNU, du coup.
Et peut-être pour se donner une idée de la représentation que notre ministre Attal a de nos élèves, on peut écouter ce qu'il dit dans d'autres médias. Alors, c'est deux petits extraits. Fatima, si tu veux bien nous les passer. Un extrait, une prise de parole de Gabriel Attal relayée dans le média de la ville de Nice. Et puis un extrait d'Europe 1. à propos de ces internats éducatifs dont on a parlé récemment, mais on va entendre en fait comment la jeunesse est considérée et les mots qui sont employés de la part des ministres à propos de ces jeunes et de la nécessité de les éduquer.
Chose promise, chose faite. Quelques mois plus tard à peine, le premier de ces nouveaux internats qu'on souhaite ouvrir a démarré ici à Nice pour ce qu'on appelle un séjour de rupture, c'est-à-dire des jeunes qui ne sont pas des jeunes délinquants, mais qui sont des jeunes qui ont besoin d'un cadre parce qu'ils ont des mauvaises fréquentations, parce qu'ils ne respectent pas les règles, puissent avoir un séjour ici pendant 2 semaines pour contribuer à les remettre dans le droit chemin. Le sursaut, il démarre tout de suite. J'avais parlé de ces internats dans ma déclaration de politique générale. Le premier ouvre ici à Nice aujourd'hui. Un certain nombre de mesures que j'ai annoncées vont prendre effet très rapidement, qui répondront à une forme de principe que j'ai édicté dans ma déclaration de politique générale, qui est aussi une forme de mantra, je l'assume. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter.
Donc ça, c'était le premier extrait et on en a un deuxième.
Sur une radio périphérique dont on ne fera pas la publicité.
Oh, d'accord, ok.
Donc on se l'écoute et c'est donc toujours le Gabriel Zattal.
Oui, c'est un montage et on entend aussi les enfants.
Voilà, c'est parti.
À propos de la violence des mineurs, le Premier ministre propose sa solution, le placement en internat. Gabriel Attal était à Nice avec Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, pour inaugurer un internat éducatif destiné aux élèves décrocheurs, un établissement où, pendant 2 semaines de vacances scolaires, une vingtaine d'élèves de 13 à 16 ans seront encadrés par des éducateurs spécialisés. Alexandre Chauveau, vous êtes à Nice. L'objectif, c'est d'empêcher ces jeunes de tomber dans la délinquance.
Oui, avec un encadrement strict opéré par des réservistes de la gendarmerie, réveil à 7h, levée du drapeau et des activités conçues pour valoriser la vie en société. L'internat apparaît pour beaucoup comme un moyen de ne pas quitter le droit chemin.
C'est soit je vais au bled les 2 mois de vacances, ou sinon je vais les 2 semaines ici. Et du coup, je préférais choisir ici.
Tous sont inscrits ici sur la base du volontariat des parents qui ont parfois du mal à trouver les bons remèdes.
J'espère à la fin de ce séjour qu'ils puissent en sortir avec beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de respect.
Face aux adolescents, Gabriel Attal joue les encadrants.
Beaucoup sur l'écran ?
Ouais, beaucoup
sur le téléphone.
Sur le téléphone.
Bah, c'est bien, ici en plus il y aura une petite cure sans téléphone. Tu vas voir qu'on peut faire plein de choses.
Fier de voir dans cet internat une illustration du choc d'autorité qu'il appelle de ses voeux.
On va inciter davantage au placement de ces jeunes en internat pour leur donner un cadre, leur rappeler quelles sont les règles et les couper de mauvaises fréquentations.
Et en cas de réussite, l'expérimentation pourrait donc être généralisée à l'ensemble du pays.
Alexandre Chauveau à Nice pour Europe 1. Alors coup de com' du Premier ministre ou vraie solution pour couper les jeunes de leur milieu nocif? On va en parler à 19h30 avec la professeure des écoles Lisa Kamen-Nirsig. Elle est l'auteur de La Grande Garderie chez Albin Michel.
Tu as coupé trop tard, hein. On l'a eu la désannonce.
Ouais. Berk. L'autorité.
Choc des savoirs, choc de l'autorité, voilà. Donc là, on voit en creux le profil des jeunes qui sont ciblés quand même.
Bien sûr.
Des jeunes racisés, des jeunes qui ne sont pas dans le droit chemin, qui ne respectent pas les règles, mais quelles règles et de quel chemin parle-t-on? Donc c'est toute une représentation. Le sujet est annoncé violence des mineurs. Violence des mineurs, alors qu'on nous dit que ça s'adresse aux mineurs qui sont sur la mauvaise pente, mais qui ne sont pas encore délinquants. Mais c'est traduit comme ça. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment parlant sur la représentation des enfants.
Oui, oui. Oui. Et pour revenir au SNU, pour l'instant, il est pas obligatoire, mais il y a des tentatives pour le rendre obligatoire, en effet. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que en fait, Macron, je pense, Attal et toute la Macronie rêvent d'une jeunesse docile. Au garde à vous.
Donc, en uniforme.
En uniforme. Oui, il y a les uniformes aussi. Et je pense que je rajouterais les manuels scolaires labellisés aussi.
Tout à fait.
Ça, c'est nouveau. Donc, plus les enseignants qui ont le choix des manuels, mais c'est le ministère qui impose. Donc, ça, de mémoire, c'était pas revenu depuis Pétain. Voilà. Donc, on est dans une mise au pas, dans une uniformisation. Alors le problème, c'est que pour l'instant, le SNU ne fait pas grosse recette auprès de la jeunesse, que les jeunes qui ont accepté, qui ont fait cette expérience, il y a de très mauvais retours. Il y a eu des cas de harcèlement, des propos racistes, des situations humiliantes, des accidents. Enfin voilà, donc la presse s'en est fait un petit peu l'écho.
Et pardon, des violences, hein, on peut le dire, des de la part des encadrants. Oui.
Et oui, ils encadrent comme des militaires, je suppose.
Voilà. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que j'ai dit. C'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'est que pour essayer de faire connaître et faire de la propagande, en fait, pour que les jeunes y aillent, il y a eu une caravane du SNU qui a fait le tour des villes de France l'année dernière. Et en fait, il y a eu des mobilisations partout où la caravane passait de collectifs, donc contre le SNU, puisqu'il y a des collectifs qui se sont mis en place. Et ça a fait un fiasco, en fait. Et par contre, c'est là qu'est née l'idée des casserolades. Voilà.
Très bien. Une autre façon peut-être d'étendre le service national universel qui ne remporte pas un grand succès, c'est les fameuses et nouvelles classes et lycées engagés. Donc c'est un label hein, qui a vu son apparition en 2023. Donc on incite en fait les professeurs à s'engager avec leur classe, à aller au fameux séjour de cohésion où on apprend à marcher au pas, un, deux, comme tu disais tout à l'heure. Et ça, c'est proposé aux classes de seconde et de première année de CAP.
Oui, ça, je ne sais plus trop les classes concernées. Par contre, les enseignants qui rentrent qui acceptent de participer à ça, c'est en lien avec une réforme qui a mobilisé un petit peu l'année dernière, c'est la question du pacte. Enfin, ce n'est pas une réforme, c'est un... Voilà, il faut signer le pacte et on touche des sous.
Donc le pacte, c'est ce qui formalise la rétribution pour des tâches qui ne sont pas...
L'obéissance des enseignants.
C'est le
contre-rétribution.
On peut dire que c'est le pactole.
Alors, même pas. Hein. C'est surtout le pacte avec le diable.
Hein. Je voudrais juste rebondir tout à l'heure, Camille a très bien dit que le programme qui est mené actuellement par le gouvernement français, il est totalement inspiré de l'extrême droite et que donc c'est vraiment une démarche idéologique hein, et dans laquelle on va retrouver aussi les extrêmes droites vont aussi avancer beaucoup plus vite dans une période de crise économique, ce qui est aussi le cas. Et moi je rebondis sur encore un cas donc j'ai connu quelqu'un que j'ai soutenu, aidé, donc un jeune homme donc dans les 25 ans qui avait il n'avait pas réussi à l'école, donc il faisait comme il pouvait. Et en fait, on lui a tendu l'hameçon, qui est très tentant, d'un truc qui s'appelle l'EPIDE. L'EPIDE, c'est un système qui a été mis en place et c'est vraiment une collaboration, le terme est bon, entre donc les services genre Pôle emploi ou France Travail maintenant et le ministère de la Défense des armées. Et EPIDE, ça veut dire établissement pour l'insertion dans l'emploi, d'accord, où en fait les maîtres mots c'est confiance, discipline, responsabilité. Et en fait, c'est assez terrible parce que les jeunes qui sont en galère, souvent sans famille, etc., l'EPIDE leur offre le gîte, le couvert, ils sont en internat, mais en plus, comme c'est des jeunes adultes, ils sont assez bien traités. Le copain que j'ai suivi me dit « on mange super bien », etc. Et moi, j'ai dit « il me semble bien que tu vas voir, l'armée va te proposer de faire des propositions ». Et effectivement, ils lui ont fait un certain nombre de propositions qui avaient l'air hyper alléchantes, du style « tu vas avoir un bon boulot, tu vois un boulot, la stabilité de l'emploi avec l'armée ». Voilà, l'EPIDE, je tenais aussi à dénoncer ça.
Oui, moi ça me rappelle aussi le documentaire de Michael Moore où on voit l'armée recruter à proximité des établissements scolaires, des quartiers populaires. Voilà, enfin, il y a un grand déploiement. Alors on a invité Sud Éducation parce que Sud Éducation, il y a l'anti-hiérarchie qui est très important. Enfin, il y a des valeurs militantes que vous tricotez avec l'objectif aussi qui est l'éducation. Enfin, voilà. Représenter les enseignants. Et donc, un de vos camarades a écrit un texte qui n'est même pas un brûlot, hein, qui rend compte simplement de la réalité de ce qu'est l'armée en termes de sexisme, de misogynie, de culture droitière, homophobe, et émet un doute sur le fait que ce soit de bons éducateurs pour nos enfants. Il aurait même pu dire que 4 militaires sur 10 votent pour l'extrême droite. Il ne l'a pas fait. Et pour ça, il a quand même essuyé un dépôt de plainte de la part de Darmanin qui juge que c'est une diffamation et injure publique envers la police et la gendarmerie. Voilà, donc je le souligne parce que ce camarade, je suppose qu'il est encore dans cette affaire-là, que ça le mange de l'énergie aux militants sur une affaire qui ne devrait pas avoir lieu. Ça sera sûrement classé sans suite. Et ça rappelle d'autres histoires qui...
Juste pour je tiens à souligner quand même que par rapport à cette affaire, donc Darmanin a porté plainte lui-même. Donc c'est quand même assez remarquable. Il ne le fait pas toujours pour un journal qui doit être tiré à quelques dizaines d'exemplaires. Peut-être centaines, pas plus. Mais pour le coup, l'ensemble, l'intersyndicale éducation soutient le camarade. Ce qui montre aussi que y a une inquiétude par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette dérive.
Voilà. Mais il y a une inquiétude par rapport à la liberté d'expression syndicale. On a vu le cas aussi du camarade de la CGT qui, pour un tract de soutien à la Palestine, s'est retrouvé aussi inquiété. Et je renvoie aussi à la très bonne émission... les rencontres littéraires à Terra Nova du jeudi matin. Vous retrouverez sur Radio Canal Sud, vous retrouverez une rencontre autour du livre Entrée en pédagogie antiraciste, où il est question aussi des camarades de Sud Éducation 93. Également qui avait été inquiété vous retrouverez toute l'affaire pour avoir créé des ateliers en non-mixité pour pouvoir parler de l'antiracisme. Donc ça, c'est vraiment des valeurs très importantes à Sud Éducation, l'antiracisme, l'antisexisme, l'internationalisme, l'antimilitarisme, l'anti-hiérarchie. Je le rappelle parce que c'est quand même les raisons aussi pour lesquelles on vous a invité ce matin pour parler de ce sujet.
Si je puis ajouter simplement que si effectivement Darmanin est capable de porter plainte en son nom pour effectivement quelque chose qui a très peu d'audience finalement, là où on est en train de lui en donner bien davantage, c'est aussi parce qu'il n'y a pas plus politique que l'éducation. C'est l'avenir d'un peuple, c'est ce qui vient demain. C'est donc comment effectivement, de quoi on nourrit notre futur. Il n'y a pas plus politique que l'éducation, il me semble, d'où l'importance d'essayer de casser toutes les voix qui sont dissidentes, toutes les voix qui pensent par elles-mêmes, et que le camarade soit sanctionné, ne soit pas sanctionné. Ce qu'ils veulent faire, c'est faire peur. Donc merci à vous d'être là, merci aux auditrices, aux auditeurs, justement de dire que c'est seul la lutte paix. Et voilà, évidemment, on n'est jamais sûr de réussir. Par contre, 100% des choses qui ont été des victoires ont été des luttes qui ont été menées. Voilà.
Dominique, tu avais quelque chose à rajouter par rapport
au... Je fais une petite parenthèse sur les manuels scolaires quand même, puisqu'ils vont être labellisés. C'est que Bolloré a la main mise sur une grosse partie de l'édition scolaire, notamment par Hachette et Enidis. Editis, voilà. et que voilà, le contenu aussi n'est, enfin, il y a l'armée, il y a l'État et il y a les patrons, il y a les multinationales, et que l'école, effectivement, je pense que c'est un gros enjeu et ça intéresse beaucoup de gens, et que c'est important de résister, de tenir à nos idées, à nos à quoi on pense, à quoi on rêve et ce qu'on voudrait, nous, pour l'école et pour la société.
L'école n'a pas à être ni une mini-entreprise, ni une mini-armée. C'est pas sa vocation, en fait. C'est pas du tout l'objectif, n'est pas de faire expérimenter à l'école les modèles qu'il faudra accepter ensuite dans l'entreprise ou dans la société, une société militarisée, dans une société... hiérarchiser, toutes ces choses-là.
Société capitaliste,
c'est ça. Je peux juste reciter le slogan des années 80 contre la symbiose armée-école, c'était une école sans curé, une école sans patron, une école sans armée, une école émancipée.
C'est ça, mais on va peut-être écouter un dernier son de la playlist de Sud Éducation de ce matin. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces apports qui nous ont éclairé sur ce débat urgent, important, dont il faut que tous les citoyens se saisissent, en fait.
Merci à vous. Merci Camille, merci Dominique. On s'écoute ça, tous les nostalgiques des années 80, où on avait encore quelques espoirs. Voilà, on s'écoute ça.
Tu avais juste 18 ans, quand on t'a mis un béret rouge, quand on t'a dit rentre dedans tout ce qui bouge. C'est pas exprès que t'étais fasciste, parachutiste. Alors de combat en combat, c'est formé ton intelligence. Tu sais qu'il n'y a ici-bas que deux engeances, les gens bien et les terroristes, parachutistes. Puis on t'a donné des galons, héros de toutes les défaites, pour toutes les bonnes actions que tu as faites. Tu torturais en spécialiste, parachutiste. Alors sont venus les honneurs, les décorations, les médailles, pour chaque balle au fond d'un cœur, pour chaque entaille, pour chaque croix noire sur ta liste, parachutiste. Mais malheureusement pour toi, bientôt se finira ta guerre. Plus de tueries, plus de combats, que vas-tu faire? C'est fini, le travail d'artiste, parachutiste. C'est plus qu'un travail de nana, de commander à ceux qui savent lire. Surtout que t'as appris avec moi ce que veut dire le mot antimilitariste, parachutiste. T'as rien perdu de ton talent, tu rates pas une embuscade, mais comme on tire plus vraiment, tu trouves ça fade. C'est peut-être pour ça que t'as les yeux tristes, parachutiste. Mais si t'es vraiment trop gêné d'être payé à ne rien faire, tu peux toujours te recycler chez tes petits frères. Je crois qu'on engage dans la police, parachutiste.